Bien, donc je vais vous parler du sujet qu'a introduit Gérard et je vais commencer par un petit peu d'histoire. Donc c'est un travail assez collectif, comme vous pouvez le voir sur la liste des noms. Le dernier nom est en gras parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est dans la salle. C'est un élève de Marc Pouzet et Tim Burke qui démarre une thèse sur le sujet et qui a commencé comme premier travail par corriger toutes les bêtises que les auteurs précédents de la slide avaient dites. Donc c'est tout à fait bienvenu pour l'exposé d'aujourd'hui. Donc je voudrais commencer par un petit peu d'histoire et de célébrer la mémoire de Paul Caspi, hein, qui a disparu il n'y a pas très longtemps, pour vous expliquer la genèse de ce travail. Ça a démarré par un peu de sociologie en fait. Puisque dans les années 90, Paul était consultant à Airbus Toulouse, qui était un des premiers utilisateurs de SCADE à l'époque, qui était le langage synchrone industriel construit au-dessus de Lustre, dont Paul était un des deux papas. Hein, donc c'était l'époque où on pouvait faire des enfants en étant du même sexe, hein, l'autre papa étant Nicolas Alvax, c'était en avance. Donc, il consultait chez Airbus, spécialement dans le département qui faisait les contrôleurs de vol, c'est-à-dire un petit peu la partie du système embarqué, relativement critique et où on implémente l'automatique des commandes de vol pour stabiliser l'avion. Alors, il a constaté d'une part, alors il savait que les programmations étaient faites en Lustre, donc en principe un langage synchrone. Et il avait remarqué que l'architecture de calcul utilisée pour ces logiciels, pour les implémenter, n'obéissait pas à un mécanisme avec des horloges synchronisées. Hein, c'est-à-dire que Airbus ne voulait pas entendre parler d'une référence temporelle globale unique et utilisait plutôt des systèmes que je vais vous décrire après. Qui était relativement asynchrone pour des raisons que je vais vous expliquer après. Donc il y avait un problème d'une certaine manière entre la vision de la programmation d'une part et d'autre part le modèle d'exécution de la machine qui ne cadrait pas avec la vision de la programmation. Et de la même façon que Gérard vous a décrit avant un cas de figure où on croit exécuter des choses alors que le modèle physique ne correspond pas au modèle idéal de calcul et que ça peut créer tout un tas de problèmes, eh bien, il y a évidemment le même risque dans l'exemple que je vais vous raconter. Et donc, il a sans doute, alors je ne connais pas exactement le détail, ça aurait été intéressant qu'il soit là pour nous l'expliquer, mais je sais qu'il a longuement discuté avec les équipes qui faisaient cette programmation et qui lui ont expliqué les précautions en matière de discipline de programmation que ces équipes prenaient. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'utiliser une programmation comme nous faisions tous à l'époque pour programmer en langage synchrone, donc avec des événements, des variables, des fronts montants, des fronts descendants, des choses assez simples pour programmer des automates, eh bien, les programmeurs d'Airbus utilisaient une bibliothèque tout à fait particulière de composants autorisés en SCADE, les autres étant interdits, et une discipline de programmation pour les assembler. La philosophie qui était derrière tout ça, c'est qu'il ne fallait surtout pas faire confiance à des événements de courte durée. Ces événements pourraient être simplement la manifestation d'un artefact de l'inadéquation entre le système physique de calcul par rapport à ce qu'on voulait réellement programmer. Et donc, en quelque sorte, ils avaient une technique de programmation assez compliquée, visant à rendre les événements épais, alors que théoriquement, ce sont simplement des snapshots. Donc, Polo a eu un certain nombre de contrats avec Airbus visant à formaliser cette démarche, à la justifier, et il a dirigé sûrement une thèse, et peut-être deux, je crois. Donc, sur ce sujet-là, ça a été à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et puis, il est venu raconter ce problème, je me souviens, une des premières conférences M-Soft, où il est venu nous expliquer que le vrai synchrone tel qu'implémenté par les automaticiens, ce n'était pas ce qu'on croyait. Donc, il nous a raconté un peu comment étaient faites les machines d'exécution, au moins chez certains. Et donc, petit à petit, il y a eu la communauté des auteurs que je vous ai montré précédemment qui a essayé de simplifier l'analyse que Polo avait faite pendant ses thèses du système de programmation d'Airbus. Et le résultat est arrivé à quelque chose de plus simple, dont vous allez voir qu'il se présente comme une espèce de middleware au-dessus de la couche de communication qu'utilisait Airbus et qui permet de reproduire une vision idéale synchrone comme en avait besoin la compilation de SCADE. Voilà pour l'historique. Donc, les motivations, la première chose, c'est que tout ça se place dans le cadre d'une évolution qu'on trouve à la fois en aéronautique, hein, ça c'est un transparent de quelqu'un de chez Airbus qui parle de la migration vers ce qu'on appelle IMA, Integrated Modular Avionics, qui consiste à passer d'une technologie proche de l'analogique qu'on avait dans les années 80 et auparavant, où chaque tâche était implémentée par un calculateur physique indépendant et où les liens entre tâches étaient implémentés par des fils de communication dédiés. Donc, dans le courant des années 90, les avionneurs ont décidé de regrouper plusieurs tâches sur un même calculateur et donc de standardiser ces calculateurs. C'est des cabinets que vous voyez là. Alors, ce n'est pas le dernier cri de la technologie puisque c'est seulement celle qui est utilisée dans l'A380 qui est vue sur ce transparent. Il y a eu des évolutions depuis. Mais le principe a été conservé et permet d'avoir une architecture dans laquelle plusieurs fonctions sont repliées sur un même calculateur et inversement, certaines fonctions ont à être distribuées pour d'autres raisons. Et donc, quand on a plusieurs calculateurs dans le réseau de calcul, dont certains sont là pour des raisons de réplication, pour accorder la tolérance aux fautes, eh bien, on a une architecture de calcul qui est distribuée et qu'il faut manipuler avec certaines précautions. Donc ça, c'était le cas de l'aéronautique. Vous avez la même chose, la même évolution dans l'automobile, ça s'appelle AUTOSAR. Ce n'est pas la même technologie, mais le désir est le même, exactement. Donc je ne vais pas vous le détailler, mais c'est exactement le même but qui est visé. Et ça, c'est une migration qui est en cours et qui permet de passer des 70 calculateurs que vous savez sur les BMW haut de gamme d'il y a quelques années à une réduction significative dans les modèles à venir ou plus récents. Alors, autre motivation, on cherche à faire, donc à développer ces systèmes et les systèmes logiciels qu'on déploie sur ces avions de plus en plus en faisant de la modélisation virtuelle, en faisant des modèles à la fois des fonctions qu'on veut déployer et de la façon dont ils sont déployés sur l'architecture de calcul et des propriétés de timing qui en résultent, éventuellement des propriétés d'énergie, ainsi de suite, parce que tout compte. Donc, vous avez ici un environnement donc, qui a été réalisé autour de SCADE pour faire ce genre de travail et qui a été développé par Esterel Technologies, donc, qui fait partie aujourd'hui de la société ANSYS, et vous avez le même genre de choses, le même genre d'outillage, avec le même genre de but, des technologies différentes, donc qui ont été développées pour la filière AUTOSAR par Dassault Systèmes. Donc c'est le même principe. Si vous arriviez à lire dans les toutes petites lignes, là il est question de virtual prototyping, donc où ils expliquent exactement ce que je vous ai dit, où on cherche à modéliser l'ensemble de manière couplée avant de le réaliser. C'est l'aspect voiture électronique artificielle, virtuelle. Donc, la possibilité de réaliser des systèmes complètement en numérique avant de les réaliser pour de bon nécessite d'avoir une vision assez claire des modèles de programmation qu'on utilise, c'est-à-dire d'avoir une vision mathématique abstraite qui permettent de raisonner sur les logiciels qu'on embarque dans ces systèmes. Donc, ça, c'est un travail qui a été fait, Gérard y est pour quelque chose, depuis le début des années 80, pendant une vingtaine d'années, ce travail a été fait dans la communauté de la programmation synchrone pour les modèles de programme. Donc là, j'ai cité les deux modèles de programmation qui sont importants et qui vont nous occuper aujourd'hui. Le modèle de programmation synchrone sur lequel je reviendrai et ce qu'on appelle les réseaux de Cannes, dont on parlera un petit peu également dans la suite. Peut-être que Gérard a déjà parlé de ça dans son cours. Donc, et ce qui va m'occuper aujourd'hui, c'est le même genre de travail, mais non pas pour les programmes qu'on écrit, mais pour les architectures sur lesquelles on les occupe, sur lesquelles on les déploie. Hein ? Donc, c'est qu'il est également possible de modéliser les architectures, non pas dans le détail, mais d'avoir une vision mathématique abstraite et simplifiée de quelques propriétés essentielles des architectures sur lesquelles on déploie et grâce auxquelles on est capable de faciliter le design et de le faire sans erreur. Donc, le premier exemple remarquable, hein, je crois que c'est vraiment un résultat fondamental donc, d'architecture fondée sur un modèle mathématique précis, c'est le travail de Hermann Kopetz, hein, qui remonte à la fin des années 80, et qui est maintenant une référence, beaucoup plus employée dans l'automatique répartie et le temps réel, qui est ce qu'on appelle time-triggered architecture, qui revient à créer un monde réparti synchrone, globalement, grâce à une algorithmique de synchronisation d'horloge. Donc je suppose que ça, des choses de ce type-là seront présentées au prochain cours. Donc avec une horloge logique et physique synchrone globalement valable sur tout le système, une notion globale de temps discret qui en résulte avec un certain échantillonnage le plus rapide possible, hein, on ne peut pas aller au-delà, des services de tolérance aux fautes, une technologie pour ordonnancer les tâches fondée sur l'utilisation du temps et une notion d'interface également complètement reposant sur l'utilisation du temps. Donc tout ça est très propre et fait de manière tout à fait élégante. Alors, malgré l'élégance, alors ça a percé dans certains secteurs de l'aéronautique pour les applications les plus critiques. Ça a été beaucoup utilisé par Honeywell, c'est pas mal présent dans le 777. Et il y a eu néanmoins des résistances à cette technologie, d'abord parce qu'il y a un coût dans la réalisation des réseaux à horloges synchronisées correspondants par rapport aux réseaux les plus répandus dans l'industrie. Le système de partage des tâches par time division multiplexing, c'est-à-dire par allocation de slots temporels, est relativement rigide et global, et par conséquent, si on fait une petite modification de l'application, ou bien on a surbudgété et c'est coûteux, ou bien il faut faire un redesign complet, ce n'est pas incrémental. Et donc, pour ces raisons-là, il y a un certain nombre d'industriels qui ont hésité à adopter cette approche. Alors, un cas typique où cette approche est relativement inadaptée, c'est le cas du système de programmation de contrôle réparti d'un système ferroviaire avec les signaux qui transitent par les rails ou par radio. Et où là, évidemment, le prix pour réaliser une synchronisation d'horloge globale peut être jugé inapproprié. Hein ? Et dans ce qui est effectivement utilisé dans ce type d'infrastructure, ben c'est une pratique qui est tout à fait naturelle quand on voit les choses comme ça, c'est-à-dire que grosso modo, chaque opérateur, chaque calculateur embarqué, échantillonne l'endroit où ces signaux arrivent à l'horloge qui lui est propre, dont il est maître, sans se préoccuper de ce que font les autres, et il lit ce qui passe au moment où ça passe. Hein ? Et donc, vous avez un système qui est globalement asynchrone, avec un système maître qui s'occupe de la communication, qui a sa logique propre et qui a sa périodicité propre, qui s'occupe de transférer les signaux à son rythme, les calculateurs qui lisent. Donc tout ça n'étant pas synchronisé. Donc néanmoins, il faut arriver à utiliser ce type d'infrastructure. Bon, là, je vous montre encore une fois le transparent d'Airbus qui précise bien que dans la FDX, vous avez un système de transmission qui est fondé sur un paradigme non synchronisé. Alors, Ça, c'est un transparent de la société TTTech, donc, qui est la société qui a été fondée par Hermann Koppetz, qui a démarré de manière idéologique en ne vendant que de la technologie TTA, qui a par la suite mis de l'eau dans son vin. Et là, vous avez un produit qui est un produit hybride qui permet de faire des solutions Ethernet asynchrone au-dessus d'une couche strictement TTA, de faire cohabiter les deux mécanismes de communication de manière propre. Donc c'est un joli travail, mais donc qui montre qu'il y a effectivement besoin de faire cohabiter les deux types de modèles d'infrastructures réparties pour l'automatique temps réel. Donc on a vu que quand on ne peut pas avoir d'infrastructure de type TTA, et par exemple, je vous ai donné des exemples, le cas très très réparti, le cas où la communication est radio, et il y en a d'autres, mais on veut néanmoins avoir un temps global logique cohérent, alors probablement, et si possible aussi avec un contrôle du temps physique, de l'aspect physique des horloges associées, eh bien, il faut quand même faire du travail, et donc c'est ça, cette idée des architectures mollement synchrones, je suppose qu'il faut dire en français. Donc, la première chose que je voudrais faire, on va passer graduellement de la vision de la programmation synchrone à une vision compatible avec cette architecture de calcul. Première étape, des modèles synchrones à ce qu'on appelle les réseaux de Cannes, et je vais plutôt, comme ce n'est pas les réseaux de Cannes dans toute leur généralité, je vais plutôt prendre une sous-famille qui sont une race particulière de réseaux de Petri que je vais vous présenter maintenant. Donc en haut, ici, vous avez le modèle de deux calculateurs qui font un travail assez stupide. Donc ils ont un cycle d'horloge. Alors il y a une horloge globale à tout le système. Et à chaque tic d'horloge, il y a une lecture des signaux d'entrée, une production de signaux de sortie. L'autre fait la même chose en même temps. Et de façon à ce qu'il n'y ait pas de court-circuit, les résultats sont bufferisés un coup dans les fils. Et donc, chacun travaille sur les valeurs calculées au coup précédent par l'autre. Et donc, tout ça fonctionne. Et en bas, vous avez une vision en réseau de Petri, ce qu'on appelle les réseaux de Petri sauf, de la même chose. Alors, vous avez ici... Alors que je suppose que tout le monde ne connaît pas comment fonctionne, je ne crois pas qu'il y ait d'animation là, on en verra tout à l'heure. Le principe du réseau de Petri, c'est quelque chose qui permet de décrire les actions du calculateur 1 ici, du calculateur 2 ici. Donc le calculateur 1 effectue une action de lecture de ses entrées, par exemple d'une entrée externe et de l'entrée qui viendrait de l'autre calculateur ici. Une fois qu'il les a lues, il a acquis les données en mémoire et il peut effectuer l'étape de calcul qui est ici. Alors la place est vide, il n'est pas en train de calculer. Là, il a la possibilité de lire. Quand il aura lu, il aura pris les informations qu'il a en entrée, il aura mis le jeton ici, ce qui veut dire « je suis en train de calculer », et à partir de là, il sera prêt à écrire et à pousser les jetons, ainsi de suite. Là, pour l'instant, vous voyez qu'on est dans la situation où les données résident dans les deux mémoires, c'est-à-dire sur les fils, les jetons sont à cet endroit-là. Pour l'instant, je ne parle pas de ce qui se passe ici, des parties en pointillés. Et donc, vous avez ici un modèle tout à fait simple, dont on peut étudier les propriétés, on va s'en servir amplement après, qui permet de caractériser de manière abstraite le fonctionnement de cette machine de calcul. Voilà. Donc, le dessin qui est en bas, la collection des ronds rouges ici qu'on appelle des places par opposition aux transitions qui dénotent les actions qui durent indique ici l'emplacement des jetons au début de chaque réaction. Donc les jetons vont circuler dans le réseau et la réaction sera terminée quand les places rouges seront de nouveau occupées par les jetons. Maintenant, si on oublie les places rouges, on a maintenant ce qu'on appelle un réseau de Petri ordinaire, pour ceux qui connaissent le modèle de réseau de Petri ordinaire, et vous perdez la notion de début et de fin de réaction. Et vous avez ici un modèle d'exécution qui est asynchrone. Par exemple, il est tout à fait possible de tirer cette transition qui consomme ces données d'entrée est capable de les faire transiter à l'intérieur de l'organe de calcul sans que la deuxième fasse quoi que ce soit. Donc tout le monde n'est pas obligé d'opérer en même temps. On voit très bien que ce modèle-là commence à relâcher le synchronisme. Donc le raisonnement que je vous ai fait là vous explique, et il y a une façon systématique de faire ça et propre, d'avoir cette abstraction simple de l'exécution d'un programme synchrone déjà assez largement désynchronisé. Alors, ce raisonnement marche quand tout le monde effectue les calculs à chaque tic d'horloge, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des applications, c'est-à-dire la plupart des applications sont dites multi-horloges. Donc, je vais peut-être regagner un peu de temps en passant l'explication de ce qui se passe dans ce cas-là, qui n'est pas le centre de mon exposé aujourd'hui, et j'en viens à l'étape suivante, une fois qu'on a déjà obtenu cette vision simplifiée de l'exécution d'un programme synchrone, des visions partiellement désynchronisées, on va pouvoir regarder un peu ce que sont les architectures dont je vous ai parlé tout au début de l'exposé. Premièrement, le mode de communication. Donc, c'est ce qu'on appelle la communication par échantillonnage, qui est le point de vue traditionnel de l'automaticien, hein, qui est très proche de l'analogique, en quelque sorte, où vous avez un médium de communication qui consiste en, idéalement, un fil par variable partagée entre les systèmes. Vous avez ici un fil qui permet de transiter les valeurs de X, un autre pour Y, un autre pour Z. Donc, il n'y a pas de multiplexage hein, dans le modèle idéal, on ne s'occupe pas de ça. Et chacun des fils ici, qu'est-ce qu'il fait? Quand il en a envie, il lit le contenu de ses buffers d'entrée, il prend un coup tranquillement, ou deux coups, ou trois coups, selon comme il est fait, de sa propre horloge pour expédier les données à l'autre extrémité, et c'est tout ce qu'il fait. Et il fait ça à chaque pas. Il ne se préoccupe pas de savoir s'il a eu des nouvelles valeurs ou pas, il ne s'occupe pas de ce que font les autres, il fait juste ce boulot, il est maître, il ne s'occupe pas des autres. Ici, vous avez un calculateur qui fait exactement la même chose. Il écrit et il lit de ses buffers de communication avec ce système avec le réseau. Il a des buffers de communication ici en interface et il lit et il écrit dedans selon sa propre horloge, à sa propre période, sans se préoccuper de ce que font les autres. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication par échantillonnage. Alors, c'est extrêmement peu cohérent, ça ne donne pas du tout de vision globale du temps et ça paraît tout à fait peu approprié pour porter la programmation synchrone. Évidemment, l'avantage, c'est que c'est très facile de trouver un médium de communication qui vous garantisse au moins ça. Donc, c'est une des caractéristiques de la FDX, entre autres. Il y a beaucoup de réseaux de terrain d'automatique qui fonctionnent selon ce principe. Évidemment, tous les blocs sont autonomes, chacun est isolé. L'isolation des blocs et le fait que le blocage d'un élément du réseau ne pourrisse pas l'ensemble du système, ben, c'est immédiatement satisfait, puisque chacun est autonome, il n'y a pas de rendez-vous, pas de synchronisation, donc pas d'interblocage. Évidemment, il y a tout un tas d'autres artefacts qu'il va falloir qu'on étudie. Premier artefact, ben, évidemment, comme les horloges ne sont pas à la même vitesse, il est possible que dans les tics de lecture là, qui sont marqués en rouge, eh bien, on ait lu deux fois la même donnée qui a été déposée en bleu, hein, parce qu'on a lu un peu vite. Vice-versa, il est possible qu'on ait deux fois déposé des données alors qu'aucune lecture n'a été vue. Donc on peut évidemment avoir à la fois des pertes et des publications. Bon, ça on peut dire, à la limite, il suffirait qu'on échantillonne plus vite pour qu'on ne perde rien et que les informations significatives soient passées beaucoup plus lentement. C'est-à-dire qu'on rende les événements durant, par exemple, plusieurs tics d'horloge et on pourrait s'affranchir de ce problème-là un peu par une espèce de principe de Shannon, d'échantillonnage de Shannon. Malheureusement, ça ne marche pas, comme vous le montre l'exemple qui est suivant, dès qu'on a deux signaux qui sont récoltés et qui proviennent de deux sites distants différents. Alors voilà un peu ce qui peut se passer. Voilà ici, on a le signal booléen AT qui vient de la machine A3 et le signal booléen BT qui vient de l'autre machine ici. Donc en tant que signaux analogiques, ils sont reçus comme ça. Voilà. Et on veut calculer la conjonction de ces deux signaux booléens et selon l'horloge avec laquelle ce gars-là échantillonne, vous allez obtenir, on voit bien, des résultats qui sont complètement différents. Dans cet exemple-là, il ne voit pas ce qui se passe ici, et donc le résultat est sorti plat, tandis que dans le cas ici, il sort un changement de valeur à un tic d'horloge. Donc on voit bien que le résultat, et ça, ce n'est pas compensable par une accélération des horloges, il n'y a rien à faire. Donc il faut faire autre chose. Donc l'utilisation typique de ce genre d'architecture, c'est d'utiliser en deux niveaux. L'architecture brute que je vous ai montrée là, eh bien, on peut l'utiliser pour les calculs non booléens, mais pour l'automatique continue, c'est-à-dire dans des équations différentielles avec des systèmes physiques. La continuité du système fait que échantillonner pas exactement au bon moment n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est le caractère récent ou ancien des données, et c'est les propriétés de continuité qui vont induire de la robustesse dans les calculs. Bon, on a un peu des déviations, mais d'une certaine manière, on a des petits changements causés par des petits changements d'horloge. Donc, on peut faire de l'automatique continue avec ça, c'est tout à fait envisageable. Alors, évidemment, ça veut dire que les artefacts qu'on crée avec ce système-là doivent être pris en compte pour les automaticiens qui font la conception des boucles de commande visant à stabiliser le système sur les trajectoires voulues. Donc, ça pose un problème aux automaticiens d'absorber des artefacts. Par contre, si on doit faire des automates, c'est-à-dire de la conduite de mode de marche, du basculement dans les modes dégradés ou de la commande de phase de vol, à ce moment-là, c'est du booléen, c'est quelque chose de nature différente et on n'a plus la continuité offerte par la physique et par conséquent, il faut faire quelque chose de différent. Bon, donc voilà un cas d'exemple dans le passage au tout électrique, où vous aurez beaucoup plus de calculs faits à très haute fréquence, en particulier pour la commande des ailerons, la commande des freins, donc qui passe en tout électrique dans les versions récentes. Donc on passe, si vous voulez, d'un monde de la milliseconde qui était celle de l'avionique jusqu'à la 380 à un monde de la microseconde, donc on commence déjà à voir apparaître dans le 787. Bien, donc du coup, le problème suivant est posé sur une telle infrastructure. Ce dont on a besoin, la première chose, c'est sans doute on ne va pas pouvoir préserver le timing, parce que par exemple, par essence, les horloges sont floues, mais on veut au moins que la suite des valeurs, exactement comme dans l'exposé de Gérard, on ne veut pas sortir n'importe quoi comme valeur selon la façon dont sont faits les échantillonnages. Donc ce qu'on veut, c'est préserver la suite des valeurs, ce qu'on appelle l'équivalence de flow, entre la conception idéale sur une architecture qui est globalement synchrone avec la même horloge pour tout le monde, vers une architecture qui est celle que je vous ai décrite en bas, pardon. Ça, c'est le synchrone avec une seule horloge, et ça, c'est l'architecture à communication par échantillonnage. Donc là, il faut faire quelque chose. Les gens d'Airbus utilisaient cette discipline de programmation, donc on va vous montrer qu'en fait, un protocole, un petit middleware, peut arriver au résultat voulu. Et il y a deux technologies qui permettent de faire ça. Il y en a une qui est en fait un import à peine modifié des circuits élastiques. Je crois qu'il y a eu un exposé sur les circuits élastiques par Cortadella l'an dernier. Donc vous allez revoir une présentation, peut-être pas la même, des circuits élastiques. Et donc c'est une petite variation autour de ça. Et une deuxième qui est en fait plus proche de la philosophie des programmeurs d'Airbus, qui vise à rendre épais les événements, mais par un protocole. Donc je vais vous expliquer les deux. Passons à la première, celle qui part des circuits élastiques. Donc la première chose, c'est qu'on va partir d'un modèle de machine d'exécution qui ressemble à ce que je vous avais montré tout à l'heure avec mon réseau de Petri. On va le revoir. Je crois qu'il est juste en dessous. Voilà. C'est la figure que je vous avais montrée, avec le petit réseau de Petri qui est là, qu'on va animer un petit peu dans les transparents qui viennent. Et donc, qu'est-ce que fait ce modèle de machine ? Chaque nœud donc, alterne entre un mode lecture des entrées et écriture de ses orties. Alors, à quoi voit-on que ça alterne ? C'est parce qu'il y a un jeton qui est là, qui est consommé lors de la lecture, est replacé lors des calculs internes et replacer ici après l'écriture, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a un comportement cyclique qui oblige ici à alterner les phases de lecture et d'écriture globalement, créant ainsi les diverses phases de calcul pour chaque module. Vous avez ici le réseau lui-même qui a un comportement similaire et qui a en cours de transfert, donc pour la phase de comportement décrite ici, une donnée qui est représentée par ce jeton et le comportement analogue pour l'autre module de calcul et le deuxième, la deuxième file de communication dans l'autre sens. Alors, donc, regardons comment on va modéliser donc, notre architecture, ce qu'on appelle donc, dans ce cas-là un circuit élastique. Eh bien, on dispose d'un modèle de nœud, donc le nœud I, il est simplement représenté par ce petit bout de réseau. Donc ici, il est en train d'attendre une donnée en entrée. Et puis, il ne fait rien pour l'instant, il est en repos, idle. Ici, vous avez le fil de communication qui va d'une J qui écrit au nœud I, donc il écrit dans le fil qui va d'une J au nœud I, donc ce qui est les données qui transitent entre les deux nœuds. Et en ce moment, il y a une donnée qui se trouve sur le canal. Il y a une. Alors, le modèle du réseau, il est simple. Il suffit de vous donner la liste des nœuds et la liste des fils de communication entre nœuds I et J. Donc, vous avez la topologie de l'architecture de communication. Et le modèle de complet est obtenu par ce qu'on appelle le produit des réseaux de Petri, qui est simplement le graphe du même type obtenu en superposant les transitions, les petits rectangles qui sont là, étiquetés par le même symbole. Donc, si vous avez un WI ici, il va se coller au fil. J'ai pas de chance. Ah, voilà, c'est ça, c'est le RI qu'il faut coller ici. Vous voyez que c'est la lecture qui est associée au nœud I, et ici, vous avez l'extrémité du canal de communication qui est écrit à l'entrée du nœud I. Donc les deux sont collés et comme ça vous fabriquez un graphe de plus en plus grand qui ressemble au réseau de Petri que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette opération-là, ça, c'est défini formellement comme un produit avec toutes les bonnes propriétés. Et c'est notre modèle en réseau de Petri, sauf ce qu'on appelle, c'est une catégorie de réseau de Petri qui a au plus un jeton dans chaque place. Et le voici ici et on va l'animer un peu. Donc ici, je choisis d'exécuter la lecture des données par le premier processeur. Je l'ai mis en rouge. Donc, ce travail a été effectué là. Vous voyez que le jeton qui était ici, donc qui a été lu, a été consommé par la lecture et a été propulsé dans l'organe de calcul qui peut maintenant travailler avec ces données d'entrée, faire son calcul, c'est ce qui est montrer maintenant. Et maintenant, on a effectué indépendamment, hein, parce que vous voyez que l'autre transition qui était ici, le deuxième organe, aurait pu tout aussi bien faire la même chose en même temps. Là, je vous le montre en séparé. Et donc, cette machine fonctionne comme ça et alterne de manière non synchronisé autrement que par la circulation des jetons. Il n'y a pas d'horloge dans ce modèle d'exécution. Il y a juste des jetons qui circulent, qui disent tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller, comme les témoins exactement dans une course de relais. C'est le même principe. Et évidemment, comme dans une course de relais, si quelqu'un fait tomber le témoin, ben l'équipe est disqualifiée. Hein, c'est le problème que vous voyez là. S'il y a un nœud qui tombe en rade, eh bien, la circulation des jetons s'arrête et c'est l'ensemble de la machine qui s'en trouve bloqué. Ce que, évidemment, un système de calcul sur un avion ne saurait accepter. Hein. Donc, c'est pour ça que ce genre de modèle d'architecture n'est pas utilisé tel quel dans les systèmes embarqués critiques. Cependant, il n'y a pas besoin d'une grande modification pour les rendre acceptables. Donc, je repars de la même idée et j'ajoute juste un petit truc qui est un mécanisme d'échappement, c'est-à-dire qu'un nœud a le droit de ne pas attendre ces données d'entrée au-delà d'un certain timeout. C'est-à-dire qu'il attend pendant un certain temps. Ah, le type est en retard, bon ben tant pis, je me débrouille avec les informations que j'ai, je fais avec. Donc voilà comment on modélise ça. Donc on a le canal, lui, est inchangé. Vous avez ici le modèle du nœud précédent. Et la seule chose que vous avez rajoutée ici, c'est le mécanisme d'échappement qui dit je peux soit écrire, et par le mécanisme de produit, c'est comme si vous aviez collé ces deux transitions ensemble. Et simplement, pour pouvoir écrire, il faut que ce gars-là, il ait eu la donnée là. Ben, si elle n'était pas arrivée et que le temps a passé, ben, il ne peut pas faire ce travail-là. L'écriture ne peut pas être faite parce qu'il n'a pas sa donnée d'entrée, il est coincé. Mais ça ne fait rien, il peut quand même faire autre chose. Il a le droit de lire. Ah non, excusez-moi, c'est plutôt sur... Oui, c'est ça. Si c'était la lecture qui était bloquée parce que le réseau ne fonctionnait pas, eh bien, il peut néanmoins échapper et faire passer un tour d'horloge pendant lequel il peut activer d'autres tâches, faire d'autres calculs qui ne nécessitent pas les données dont cette tâche-là avait besoin. Donc, ça n'est pas l'ensemble du système qui est bloqué, mais il va travailler éventuellement, puisque c'est un mécanisme de lecture des données résidentes sur le réseau, il va utiliser des données plus anciennes et faire le travail au lieu d'avoir les données actualisées. Donc pour certains cas, par exemple, si c'était de l'automatique avec des données qui varient graduellement, pendant un certain temps, ça reste acceptable. Donc, voilà le résultat, c'est la transformation du réseau qu'on obtient en mettant cette jolie petite fleur avec l'échappement. Même chose sur l'autre. Et donc, avec ce modèle-là, le réseau, les nœuds du réseau ne bloquent plus. Mais bien sûr, rien n'empêche, je veux dire, le comportement global du réseau et la circulation des données sur le fil restent sujets au même problème. Si elles ne sont pas envoyées, elles ne sont pas envoyées et il n'y a rien à faire. Du point de vue du comportement global du nœud, c'est quand même la partie la plus importante qui est là et qui est prédominante. Donc, en l'absence des pannes, on a un comportement logique de type périodique. Il n'y a aucune hypothèse sur les horloges, c'est-à-dire que la vitesse importe peu. Par contre, évidemment, comme chacun attend le témoin équivalent des autres, eh bien, on va travailler à la vitesse du plus lent. Et le point qui est intéressant, c'est que grâce au mécanisme d'échappatoire, eh bien, les nœuds ne sont pas gelés par un défaut de transmission à travers le canal. Donc on a préservé un petit peu l'autonomie des nœuds et c'est évidemment un point qui était important pour ces applications en aéronautique. Bon, ceci étant, les communications, alors les nœuds sont résistants, mais les communications ne sont pas résistantes à une panne, évidemment, il n'y a pas de miracle. Si on ne transmet pas la donnée, on ne la transmet pas. Bon, alors maintenant, faire mieux le système précédent qu'on va vous montrer, on va utiliser un petit peu plus d'hypothèses, on va commencer à utiliser un petit peu le temps. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il est possible d'assurer un peu de robustesse contre des nœuds qui tombent en panne en silence, qu'on appelle fail stop, et de le faire à la fois pour l'activation et pour les communications. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas bloquer les communications non plus. Alors, on va vous montrer comment on peut faire ça, mais par contre, on va avoir besoin de plus d'hypothèses et on va se servir du temps de la manière suivante. Alors, le modèle qu'on prend, là, il est un peu curieux. Donc, c'est un modèle qui est purement communication par échantillonnage. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'on dit là, la conjonction de ces deux réseaux dit que le nœud I, il lit ses données d'entrée quand il en a envie, il ne se préoccupe pas de quoi que ce soit d'autre. Donc, il est connecté à rien. Il n'y a pas de coordination au point de vue du contrôle entre la lecture du fil entre J et I et l'écriture qui a été faite. Donc, vous avez deux réseaux qui sont indépendants. On peut avoir des modèles faits un peu différents, mais celui-là, d'une certaine manière, est l'abstraction la plus simple de ce type de comportement. Donc évidemment, on voit bien qu'on n'a aucun mécanisme de synchronisation entre les deux. Apparemment, ça va faire n'importe quoi. Alors ça, c'est à comparer avec le réseau, le modèle de communication qu'on avait avant, qui est celui des réseaux à rétropression. Donc les réseaux élastiques ont une communication comme ça, donc qui oblige à déposer une donnée une seule à cause de la place en retour qui empêche de poser deux jetons. Et donc ici, on a complètement perdu cette synchronisation-là. Donc comment est-ce qu'on va faire la resynchronisation malgré cette perte de mécanisme par témoin, par passage de témoin ? Eh bien, ce qu'on cherche à viser, c'est un protocole qui va permettre globalement sur l'ensemble de l'architecture, ce qui est assez violent, hein, je vous parlerai, on fera un bémol là-dessus ultérieurement, on va recréer globalement un mode de communication synchrone au niveau de l'architecture globale, c'est-à-dire une alternance des phases globales d'écriture et des phases globales de lecture des données, de façon à ce que globalement ce soit cohérent, comme si vous aviez une base de données répartie qui verrouille alternativement les lectures et les écritures, ce qui est assez coûteux, évidemment. Donc comment on fait ça avec des mécanismes aussi peu synchronisés au point de vue fil de communication que ce qu'on voit là ? Eh bien, le principe va être le suivant. Puisqu'on n'a plus de moyen d'attendre un jeton, on n'attend plus de témoin. Il n'y a plus personne pour vous passer le témoin, donc on va décider que l'attente, on va la faire en étant patient, donc on attend un certain temps. Donc là, évidemment, on va avoir besoin d'hypothèses sur les écarts entre horloges dans les différents nœuds. Si les montres ne sont pas trop différentes, eh bien, on sait que si moi j'attends 5 minutes, peut-être que le voisin il aura 4 minutes et demie ou 5 minutes et demie, mais pas beaucoup plus. Et donc, si j'attends assez longtemps, il est probable qu'il ait eu le temps de faire son boulot et de m'envoyer ce dont j'avais besoin. Donc, on va attendre d'être patient. Maintenant, si tout le monde attend, d'une certaine manière, on n'a pas fait avancer le Schmidblick parce qu'on se comporte périodiquement suivant, je ne sais pas, ce qu'on croit être le retard des autres, mais comme on n'a aucune vraie idée, on a sa propre montre, les temps vont diverger malgré tout. Donc il faut quand même un mécanisme de resynchronisation. Alors, le mécanisme de resynchronisation, au lieu d'être opérant sur le ralentissement comme on l'avait dans les circuits élastiques, il va opérer sur l'accélération. C'est-à-dire, le principe de base fondé sur le temps, c'est que je suis paresseux, je regarde ma montre et je fais rien d'ici 5 minutes, sauf si je vois qu'il y a un gars qui a été plus rapide que moi et qui me le dit. Donc j'ai le droit, sur l'arrivée d'un jeton, non pas d'attendre, mais d'accélérer. Alors, vous voyez tout à fait la différence de comportement au niveau de la tombée en rade d'un autre nœud. C'est-à-dire que si l'autre nœud tombe en rade, simplement vous allez attendre vos 5 minutes, vous ne le voyez pas s'exprimer, vous allez faire votre boulot. Mais par contre, s'il a été plus rapide que prévu, vous allez vous réveiller plus vite et de cette manière-là, on va obtenir une synchronisation globale. Donc voilà le principe. Donc, je vois si j'ai le temps de vous passer l'animation. Oui, je pense que ça va aller. Donc je vais vous passer un petit peu l'animation. Dans un cas, alors voici la façon dont fonctionne, dont tout le protocole est installé sur les nœuds. Sur les fils, il n'y a rien. Il n'y a pas de mécanisme de coordination. Tout se passe sur les nœuds, plus des places de publication qui sont des places de broadcast. Alors, je vais vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Donc, vous avez une partie de l'architecture et qui se comporte exactement comme le réseau de Petri précédent, c'est-à-dire que ici, la ressource étant disponible ici, celui-là, il a le témoin, il sait qu'il va pouvoir écrire. Et il sait qu'il va pouvoir lire son entrée. Puis après, il va pouvoir faire un certain nombre de choses, on passera le film. Ici, vous avez des places de nature différente, donc c'est un modèle d'architecture qui est un peu hybride. Il est bâtard. Bon, on peut l'expanser en réseau de Petri, mais ça devient inutilement compliqué. Et vous prenez ça comme une espèce de place booléenne, donc dont le statut vaut 0 ou 1. Et un fil rouge d'entrant dit que lorsque l'action de lecture de la donnée est écrite ici, est réalisée ici, alors il y a une mise à 0 du registre dans cet état-là. Et inversement ici, quand cette opération est faite ici, il y a une mise à 1 du registre dans cet état-là, et on verra à quoi ça sert. Vous voyez que le point qui est important, tout ça c'était les écritures, ce qui est important c'est que le contenu de ce registre-là, il va avoir un effet, vous voyez qu'il a une flèche entrante, c'est-à-dire qu'il joue un rôle dans l'autorisation d'effectuer cette action-là, et il joue un rôle dans l'autorisation d'effectuer cette action-là. Donc on va voir lequel, et c'est le film que je vais vous dérouler. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Alors allons-y. Donc on va voir le cas d'un nœud dont l'horloge est plutôt plus rapide que celle des autres. Donc ce nœud étant rapide, bon pour l'instant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il lit, et par conséquent, il a pris le jeton qui était là, il l'a posé ici, et il a mis l'état de cette place ici à zéro. Hein, donc il n'y a pas de... Là, il y a le fait que c'est vide, ça indique que c'est, l'état est zéro. Donc maintenant qu'on est là, on a la place ici, ben, il y a deux cas de figure. Vous voyez qu'il y a un branchement ici, donc je peux soit choisir de réaliser cette opération, prendre la ressource, hein, on ne peut faire qu'une des deux parce qu'il n'y a qu'un jeton. Soit je passe le témoin à ce copain-là, soit je le passe à l'autre. Il faut que je choisisse. Donc ici, le problème, c'est que cette opération-là, pour être réalisée, elle est gardée par le fait qu'il y ait une ressource booléenne à vrai ici dans cet état-là. C'est ce qu'indique le fil indiqué par un 1 ici. C'est une condition. Cette condition n'est pas satisfaite ici. Donc il est impossible de tirer, de réaliser cette opération-là. Il est impossible de réaliser celle-ci puisque le 1, la condition d'avoir un état 1 n'est pas satisfaite. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire ce travail-là. Alors, qu'est-ce que ça traduit là ? Ça traduit le fait que personne n'avait déclaré avoir fait ces publications avant moi. Donc, puisque personne n'a dit qu'il avait publié ces valeurs ailleurs, je peux continuer à laisser passer un peu de temps. Donc, vous voyez, j'ai passé un nouveau tic d'horloge. Là, je fais ça. À chaque coup d'horloge, je fais avancer mon jeton. Je suis là. Par conséquent, maintenant, il n'y a plus rien qui m'empêche de publier ma valeur, et là je dis aux autres, hé hey, les gars, j'ai publié. Et les autres, ils regardent, donc ça je dis ça à tous les autres nœuds. Et les autres, voyant ma publication, vont dire, ah merde, il a été plus rapide que moi, il faut que je me dépêche, et on va voir ce qui se passe quand les autres ont été plus rapides. Donc voilà, alors on tire le dernier point. Alors ce qui peut se passer entre-temps, c'est que peut-être qu'il y a un autre gars qui croyait être plus rapide que les autres, même s'il n'était pas plus rapide que moi, hein, mais avec les délais, il peut ne pas m'avoir vu avant de prendre sa décision de publier, et bien l'autre, il a publié aussi. Donc il faut que je fasse attention que c'est pour ça que lors de ma première écriture, il faut d'abord que je vide cet état-là pour ne pas utiliser une valeur erronée d'un round précédent. Bon, le deuxième cas, c'est je suis plus lent que les autres. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a publié avant moi, donc c'est vraiment pendant la ronde qu'on est en train de faire, que quelqu'un a été plus rapide et a posé une donnée à cet endroit-là. Du coup, je peux réaliser plus en avance, je n'ai pas besoin d'attendre un tic d'horloge de plus, je peux me dépêcher un peu plus pour faire moi ma publication. Je la fais, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc on a de cette manière-là accéléré fait la publication soit en deux coups d'horloge si les autres ont été plus lents que moi, soit en un coup d'horloge si quelqu'un d'autre a été plus rapide. Hein, donc voilà un peu le principe de ce protocole. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble cette architecture dans un cas plus général, eh bien on fait une coupure ici, on écarte les morceaux, on éclate et on obtient quelque chose dans lequel apparaissent deux paramètres qui sont le nombre de tics d'horloge que j'attends avant de lire une fois que j'ai fait ma publication. Donc là, c'est non contrôlé, il faut que je patiente. Hein, c'est le ralentissement. Et puis le mécanisme que je vous ai décrit là, j'attends, puis hop, quand je vois quelqu'un d'autre qui publie, je me dépêche. Donc voilà comment ça se passe. Et vous avez ici les places avec les indications qu'il faut pour les gardes qui sont des places de type automate, avec des états booléens qui permettent de traiter la publication d'ensemble. Donc vous voyez que pour que ceci marche, ça suppose que y ait un mécanisme de broadcast qui existe, c'est-à-dire que chaque nœud voit les publications des autres pour certains types d'architecture, et en particulier pour les architectures qui intéressent Airbus, ce type de condition est satisfait. Donc, par contre, contrairement au cas précédent, alors dans le cas précédent, c'est-à-dire les réseaux élastiques, aucune hypothèse temporelle pour assurer la correction de l'exécution. Ici, on a besoin d'hypothèses temporelles, évidemment, puisque le ralentissement est contrôlé par le temps. Il n'y a rien sans peine. Donc là, on a besoin d'hypothèses pour les horloges. Donc, il y a un temps d'attente entre deux tics qui est borné supérieurement et inférieurement, et il y a une borne donc, sur les délais de propagation également qui est utilisée. Et les choix des paramètres PIQ dépendent de ces bornes. Donc il y a des meilleurs choix, on a intérêt à les prendre les plus petits possibles, parce que évidemment, plus vous les rallongez, plus vous réduisez le débit d'information utile par rapport aux tics d'horloge. Voilà. Donc, performance de ces architectures. Donc, point de départ, le circuit élastique. Alors, le circuit élastique, c'est un grand classique. Hein, c'est les graphes d'événements, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est des réseaux de Petri de ce type-là, dans lesquels vous n'avez jamais deux flèches qui sortent d'une même place. Donc, ce qu'on appelle, c'est qu'il n'y a pas de choix. Le chemin suivi par les jetons est toujours le même, répliqué de manière périodique. Donc, avec la synchronisation exercée par le passage de témoins. Et il y a toute une théorie que je ne veux pas vous développer là, qui consiste à regarder les temps passés dans chacun des cycles de ce réseau-là et de regarder le ratio entre le nombre de jetons qu'il y a dans chacun de ces circuits et le temps passé pour effectuer le tour du circuit. Et pour l'exemple du circuit élastique que je vous montre là, enfin c'est de manière générique pour ce genre d'architecture, ça vous donne cette quantité-là pour le débit, c'est-à-dire vous avez un ratio en inverse du maximum, de deux fois le maximum, entre la période du calculateur, la période du nœud, et le délai de transmission. Si par-dessus ça, vous mettez le petit mécanisme d'échappement, ben un petit raisonnement montre que ça revient à considérer un circuit élastique dans lequel le délai de propagation est plus long. Parce que non seulement il faut propager, mais en plus, on a peut-être échappé un coup avant de lire la donnée. Donc en fait, le délai est remplacé par cette quantité-là, et donc c'est les mêmes formules. Alors maintenant, comme on a d'un côté Tmax et de l'autre côté Tmax plus Tmax, ben le plus grand, on le connaît, et le résultat, il est là. Donc c'est tout simple, les calculs se font très simplement. Alors celui-là est plus compliqué à étudier, donc je vous donne ici les formules optimales en fonction des paramètres caractéristiques donc, du réseau, donc les formules pour PQ, et lorsqu'on a choisi les PQ les plus petits, eh bien, il y a une formule qui est celle-ci, pour vous donner le pire débit qui peut arriver. Hein, c'est les pires débits. Donc, un peu d'étude de quelques situations typiques. Donc, pour le circuit élastique, ben, pour le circuit à échappement, c'est toujours ça, la formule, elle est toujours simple, autrement, elle est assez compliquée. Il y a deux cas de figure intéressants pour le time-based, pour le LTTA basé sur le temps. Il y a le cas d'un système compact, c'est-à-dire dans ce cas, le retard et la gigue sont petits par rapport à la période de l'horloge. Et dans ce cas-là, vous avez une perte de performance entre le circuit élastique et le système fondé sur le temps qui est trop prudent. Par contre, pour un système distant, très distribué, dans lequel vous avez les rapports inverses, c'est-à-dire ce qui domine, c'est le retard, à ce moment-là, vous avez une performance, évidemment, qui est inférieure ou égale, mais qui est avec un écart négligeable entre les deux, donc on a le même ordre de grandeur de performance entre les deux architectures. Donc, quelques extensions, il y a beaucoup d'extensions possibles. Là, pour l'instant, dans ce que je vous ai montré, ce protocole supposait un retard unitaire sur chaque fil de communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication instantanée, ce qui vous oblige, entre deux blocs, à toujours avoir un retard logique. Ça, ce n'est pas une obligation, donc ça peut être affaibli. Il faut absorber ça dans le calcul des retards, en particulier pour le calcul des paramètres P et Q du système fondé sur le temps. Donc on a un rapport interne, donc nouvelle version qui corrige la version précédente, qui vous donne les bonnes quantités grâce à Guillaume. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette vision plongée uniformément dans ce modèle à base de réseau de Petri, il est très facile de comprendre comment mélanger ces deux types d'architecture. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout à fait une partie de l'application qui va être exécutée sur une architecture dominée par le temps, c'est-à-dire plus proche d'une architecture temporisée, plus proche des principes de Kopetz, qui permettent de travailler avec des slots de temps physique une fois qu'on les a abstraits et de reprendre des services d'interface et de tolérance aux fautes de type TTA, ce qui a son intérêt, et de faire la communication plus, par exemple, pour l'infotainment ou le lien avec Internet, le lien avec l'extérieur de l'avion, selon l'autre type de communication, c'est-à-dire beaucoup plus asynchrone. Donc, avec le circuit élastique, vous êtes plus près du modèle de transmission par paquet, c'est-à-dire plus près de communiquer avec le monde IP. Donc, ça, c'est un point intéressant. Pour le LTTA fondé sur le temps, on a utilisé un mécanisme de broadcast, c'est place booléenne. En fait, c'est probablement pas nécessaire, il y a juste besoin que l'information transite, c'est-à-dire on a besoin d'un mécanisme de propagation sans rupture, mais on n'a pas besoin que tout le monde voit les émissions de tout le monde, on a besoin que l'information transite. Ce que je vous ai montré, c'est un moyen de reconstituer l'exécution en synchrone alternant des phases d'écriture et de lecture indépendamment de l'application qui est au-dessus. C'est une vision middleware, c'est-à-dire qu'on fait ça sans savoir ce qu'on va déployer dessus. Et évidemment, cet agnosticisme est coûteux en termes de ralentissement, c'est-à-dire que ça pèse sur le calcul des paramètres PIQ optimaux pour les protocoles. Ça pèse sur la performance. On peut récupérer de la performance, très probablement, en utilisant la connaissance qu'on a de l'application, elle-même modélisée par l'abstraction en réseau de Petri que je vous ai montré au début. C'est-à-dire qu'on a une abstraction en réseau de Petri pour décrire l'application par un modèle déjà partiellement désynchronisé, et on doit traduire le déploiement de cette vision en réseau de Petri sur le modèle en réseau de Petri de nos architectures de type LTTA. Et en tenant compte de cette information supplémentaire, c'est-à-dire le fait qu'il y a un certain nombre de causalités qui ont lieu entre certaines opérations et que d'autres n'ont pas à être causalement reliées, eh bien on peut supprimer un certain nombre d'attentes entre des événements qui n'ont pas à s'attendre mutuellement, et donc gagner en performance. Alors ça, c'est sur l'agenda de travail de Guillaume. Donc, en guise de conclusion, ce que je vous ai montré, c'est comment, sans avoir de protocole au niveau hardware, on peut affaiblir TTA dans un TTA en quelque sorte purement logiciel, au niveau mécanisme, par un middleware purement logiciel, qui travaille sur une base de communication par échantillonnage, donc avec du temps et aucune synchronisation. Je vous en ai montré deux performances. Et en fait, il y a un grand nombre de choses à faire, c'est-à-dire on peut jouer sur les hypothèses. Tout ceci n'est intéressant que si on a une étude sérieuse de quelles sont les combinaisons d'hypothèses intéressantes qui correspondent à des architectures pratiquement pertinentes. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'être capable de traiter autre chose que simplement la performance temporelle, parce que selon la performance temporelle, on voit bien que le plus intéressant, c'est d'utiliser le circuit élastique, mais on a des raisons différentes de ne pas vouloir l'adopter qui sont liées à la tolérance aux fautes. Question, est-ce qu'il y a un paradigme mathématique, du même style que ce qu'on a là, qui permet de prendre en compte d'autres aspects du système, la tolérance aux fautes, l'énergie, la consommation ou autre, des éléments de qualité de service, des protections contre les aspects sécurité, etc. Donc des éléments de ce type-là, est-ce que ça peut être intégré dans une modélisation de ce type ? Donc tout ça, c'est du travail qui reste ouvert. Bon, alors, ceci étant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le monde des horloges fait du progrès pendant que nous, on est en train de réfléchir. C'est-à-dire qu'on est, pendant que nous sommes en train de nous donner beaucoup de mal à faire travailler des infrastructures réparties avec des horloges mal synchronisées, il y a des gens qui font un excellent travail pour avoir des horloges qui ne dévient plus les unes des autres, sans se préoccuper de leurs voisins. Donc il y a des tas de mécanismes entre les horloges atomiques, les horloges fondées sur le GPS, donc il y a des technologies qui font énormément de progrès. Donc d'une certaine manière, les écarts de tolérance entre des horloges de ce type-là deviennent de plus en plus faibles. Ceci étant, tant qu'on a besoin d'une précision en temps accumulé sur un système distribué avec des horloges différentes, on a besoin de faire quelque chose. Et ça, c'est une chose, donc Gérard m'a passé un travail, donc un développement qui s'appelle TrueTime, qui est fait par Google, donc pour des aspects data center à l'échelle du web, c'est-à-dire de stockage réparti et d'accès verrouillé aux données et de maintien de la cohérence entre les accès en écriture et en lecture. Vous voyez que c'est le même genre de problème qu'on est en train de discuter là. Et donc, ils ont effectivement mis au point des mécanismes qui ne ressemblent pas à ceux-là, de correction des imprécisions d'horloge, donc pour récupérer un temps logique global qui permet de maintenir un accès cohérent aux données. Donc, tout ça, c'est en quelque sorte des sujets qui se chevauchent de plus en plus, et l'embarqué rejoint le web à ce niveau-là. Donc voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que je pensais que ce sujet était mort. Il l'était pour moi jusqu'à l'été dernier, et donc je suis content de savoir que Guillaume replante le flambeau. Et puis finalement, c'est une bonne idée parce que effectivement, cette ouverture de continuum entre l'embarqué et l'échelle du web sur ces problèmes de modèles d'architecture distribués avec cohérence logique des données, c'est probablement quelque chose qui va être tout à fait, enfin qui est de plus en plus, qui restera d'actualité à toutes les échelles. Voilà.